Sud Radio 10h midi, Valérie Expert.
Avec vous sur Sud Radio dans quelques instants, un nouveau spectacle des Chevaliers du Fiel. Si, si, c'est vrai, vous pouvez le voir, vous pourrez le voir en direct. Bon, ce sera à la télévision et on va en parler avec eux, les décoiffeuses. Un tout nouveau spectacle sur C8 à ne pas manquer. On en parle dans un instant avec vous. À tout de suite.
Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média.
Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi. Bonjour Gilles Dangemann. Et on va recevoir les Chevaliers du Fiel. Ils seront avec nous à partir de 10h15 à peu près.
Depuis Toulouse.
Absolument. Et puis ils vont être en direct sur C8. Nouveau spectacle. Et puis à 10h30, je recevrai l'ancien procureur de Douai, très engagé contre les violences faites aux femmes, Luc Frémiot. Il sera avec nous et on fera le point pour voir si les choses avancent et ce qui a changé. À tout
C'est
la question du jour.
La question du jour, vous savez qu'on fait une spéciale dans toutes les émissions. Ça fait un an qu'on était confinés. Il y a un an, j'étais loin de vous, Valérie.
Oui. Non, on était venus il y a un an.
Non, on était en studio à ce moment-là. On a été confinés bien avant, nous. Ouais. Donc j'étais loin de vous. Vous étiez chez vous et moi chez moi. Et là, nous sommes enfin ensemble. Alors, ce confinement a changé évidemment vos habitudes.
Mais peut-être pas pour longtemps.
a changé nos habitudes avec la télévision. Vous savez qu'ils ont diffusé les Louis de Funès. Les émissions étaient programmées différemment. Est-ce que donc vos habitudes télé ont changé au moment du confinement il y a un an? Eh bien oui, en majorité. Enfin, majorité à 51%. Non, à 49%. Alors, vous réagissez beaucoup sur le compte Twitter de Sud Radio. Vous disiez, certains disent qu'ils la regardaient, que maintenant ils la boycottent. Mais impossible pour moi de regarder, par exemple, du sport à huis clos avec tout leur protocole inutile. En tout cas, ça fait beaucoup réagir notre question. Alors n'hésitez pas à aller voter sur le compte Twitter pour nous dire si, avec le confinement, vos habitudes télé ont changé.
Très bien. On va passer au zapping.
Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping.
Même pas peur, moi je suis cap, madame. Hier, Jean Castex sur BFM a annoncé qu'il n'avait pas peur du vaccin AstraZeneca.
D'avoir 55 ans, pas de comorbidité connue, donc j'attends. Mais compte tenu de ce qui se passe, de ce qui vient de se passer pour AstraZeneca, je me suis dit effectivement qu'il serait judicieux que je me fasse vacciner très rapidement, dès que la suspension, je l'espère, sera levée, pour montrer à mes concitoyens d'abord que la vaccination, c'est la porte de sortie de cette crise et qu'on peut y aller en toute sécurité.
Vous croyez qu'il va montrer son torse et
Peut-être. Mais ce discours totalement contradictoire, on arrête 24 heures, je vais me faire vacciner. Enfin, c'est assez incompréhensible. Soit il a un discours de principe de précaution, ce qu'on peut entendre en disant, écoutez, on va attendre. Mais là, il dit qu'il faut arrêter la vaccination, mais que lui va se faire vacciner dès que ce sera possible. Donc, je ne comprends pas la cohérence. Bref.
Un Jean Castex au ton télégraphique, pas très Juanita Banana, un ton qui sied plus quand même à l'exercice de l'interview sur BFM, car dimanche, vous avez sur Twitch, il n'était pas vraiment un bon client. Samuel Etienne, hier, a taclé son invité.
Je ne connaissais pas Jean Castex, je ne l'avais jamais croisé, donc je ne savais pas du tout comment il fonctionnait, quel était son logiciel. Au bout de 2 minutes, 3 minutes, je me dis, ça ne va pas le faire.
Bon, c'est clair. Elle aussi, elle a taclé hier. C'est Roselyne Bachelot. Écoutez bien, Roselyne Bachelot a sorti la calculette pour rappeler ce que coûtent vraiment les aides aux comédiens, les ingrats. Écoutez bien.
Regardez par exemple ce que nous avons fait en quelques jours pour aider le monde de la culture et du théâtre vivant. 100 millions d'euros, nous avons 30 millions d'euros pour aider les festivals, 20 millions sur l'emploi artistique, 17 millions pour un fonds d'urgence pour les gens qui ne relèvent pas de l'intermittent du spectacle, 22 millions pour les artistes auteurs, 15 millions d'euros pour les tournages.
Ouais. Mais on ne peut pas dire qu'elle ne fait rien, en tout cas financièrement.
Non, mais c'est la France qui a un état... Enfin, une situation qui est dans aucun très, pays, très unique. Je voyais les musiciens du Metropolitan Orchestra de New York, eux, n'ont pas de boulot,
n'ont pas d'aide, comme
pas
en Angleterre,
d'aide, etc.
En Angleterre, ça fait un an que les théâtres sont fermés, les musicales sont fermées, Broadway aussi. Alors, qui est de retour au tribunal, Valérie? Nicolas Sarkozy, pour l'affaire Big Malion. Hier, Jérôme Lavrieux était dans C'est à vous et a prévenu qu'il ne porterait pas le chapeau. Alors, il n'a pas de chance, ce Jérôme Lavrieux, c'est un peu monsieur pas de bol. Vous allez voir ce qui lui arrive.
Mon avocat a le Covid, il est toujours en réanimation à l'heure où je vous parle, et je me retrouve, alors que ça fait tellement longtemps que je souhaite avoir ce procès, à poil. Parce que même si on est le pire des salopards comme moi, comme certains peuvent le dire, on a le droit d'être défendu dans notre pays par un avocat, et un avocat qui connaisse le dossier. Vous voyez la complexité ? Rien que dans la présentation, on peut se tromper sans faire attention. Et donc je suis dans l'obligation à mon corps défendant de demander le renvoi de l'affaire le temps que mon avocat se remet.
Je crois que ça a été refusé. Oui,
je crois
refusé,
qu'on l'a entendu dans le flash de 10 heures. Je crois que le renvoi a été refusé. Ah, il n'a pas de chance, hein, quand même. 94 ans, la reine d'Angleterre, elle est super branchée. Et alors désormais, c'était dans le petit cul hier dans le quotidien sur TMC. Désormais, elle fait des inaugurations en Zoom. Elle ne bouge plus de chez elle. Et hier, elle a inauguré un nouveau tableau en Zoom. C'était dans le petit cul.
Good morning. I'm very glad to be able to join you.
On voit ici l'employé qui a probablement lancé le call se casser discrètement, laissant la reine se démerder toute seule.
Can you see everybody? You should have six people on your screen.
Depuis, la souveraine de 94 ans est comme un poisson dans l'eau.
With your majesty's permission, a picture of your majesty.
Voilà, elle fait des inaugurations virtuelles, finger in the nose.
C'était assez incroyable. Ouais. Et pour finir, l'Île-de-France va peut-être être confinée, on le saura jeudi. Le vaccin a arrêté la cata, quoi. Et pendant son temps, eh ben, en Israël, c'est la bamboche. Eh oui, j'imagine que vous avez vu toutes les images.
Les images étaient incroyables, hein, les images
sur les réseaux sociaux de ceux qui font la fête, les restaurants ouverts. Ils sont vaccinés à plus de 106%.
Ça veut dire quoi, 106%?
Je sais pas, j'ai vu le chiffre, madame. Alors non, me cherchez pas.
Hein. 106%, c'est pas possible.
Si, parce que c'est. Voilà. Bon,
bref, ils sont tous vaccinés.
On va appeler les chevaliers du chien.
Ils sont tous vaccinés. C'est vrai que ça a permis de rouvrir les restaurants.
J'ai vu le chiffre hier sur LCI, donc c'est vrai que je répète bêtement.
Vous comprenez que la question, c'est quoi 106%? C'est une vraie question. Allez, on va retrouver les chevaliers du fiel.
Sud Radio 10h midi, Média, les invités du jour.
Les invités du jour, Ghislaine et Véronique, bonjour.
Bonjour.
Et voilà, ce sont les chevaliers du fiel qui sont avec nous, Éric Carrière et Francis Ginibre. On vous voit si vous nous suivez sur le Facebook Live avec un magnifique rideau de théâtre derrière vous. Et pour cause, on va vous retrouver en spectacle en direct sur C8 vendredi soir, 21h15. Les décoiffeuses, c'est pour ça que j'ai évoqué Véronique et Ghislaine. Comment ça va, les chevaliers du fiel ?
Ça va, en pleine préparation. Voilà. Et puis on est content de rejouer parce que quand même on a vécu une année particulière, donc c'est vrai que de remonter sur scène, ça va nous faire le plus grand bien.
Ouais. Et donc racontez-nous un peu alors qui sont ces décoiffeuses. C'est vrai que les salons de coiffure, vous le dites, ont été considérés comme des commerces non essentiels et pourtant. Alors, racontez-nous, qui est Ghislaine, qui est Véronique et...
Alors, Francis joue Véronique et elle tient un salon de coiffure. Et c'est une nana qui a la pêche, qui voulait être chanteuse de rock, mais qui est dans un salon de coiffure et qui est quand même rock'n'roll dans sa manière de penser et de faire. Et moi, je joue Ghislaine. Et Ghislaine, c'est une prof dépressive, pléonasme. Et qui vient soigner ses maux chez la coiffeuse.
Voilà. En fait,
c'est le café du commerce, mais pour les femmes. Voilà.
Dans le salon de coiffure.
Elle se confie, voilà.
Ouais. Attention, on va vous dire que vous êtes sexiste, parce que
non,
avec le politiquement correct, on va vous dire pourquoi les femmes dans le salon de coiffure. Pardon, Gilles, je vous ai coupé.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est exactement ça. Un jour, on dira pourquoi ils ont joué deux femmes, est-ce qu'on a une vraie raison.
C'est de l'appropriation culturelle. Je trouve que c'est pas très correct, quand même.
Ça fait très longtemps qu'on n'est pas culturellement... Correct, les chevaliers du fiel.
Mais justement, vous en souffrez ou pas? Ça vous fait attention à ce que vous dites ou vous changez rien?
Le moins possible. Ouais. Non, on n'a jamais fait attention à ça. On a toujours été nous-mêmes. Alors, peut-être qu'on peut nous reprocher des choses, mais en tout cas, le public ne nous le reproche pas puisqu'il est là et c'est ce qui compte surtout.
Mais vous n'avez pas de forme d'autocensure en vous disant si. Là, quand même
Si, un peu. Franchement, on ne peut pas dire les choses qu'on disait il y a 10 ans. Hein. Ouais. Ça, c'est clair et net. Nous, on essaie de préserver notre liberté d'expression le plus possible, notamment à la télé, enfin pas justement pas assez vite, mais sur d'autres chaînes où on va aussi souvent, il y a quand même une espèce de changement quand même sur tout ça.
Ouais. Alors vous allez être en direct vendredi. Est-ce que le direct, ça vous permet d'adapter le spectacle ? Alors parler du confinement, s'il y a un reconfinement, parler des Césars ou des choses comme ça. Est-ce que vous êtes du genre à adapter les choses ou vous avez un texte ?
On aimerait ne pas faire la même audience que les Césars.
Ça, c'est sûr.
Non, mais en fait, bon, c'est un spectacle qui est écrit, hein, donc on va pas non plus improviser au jour le jour. Mais on parle de faits d'actualité, ça c'est vrai. Et puis après, bon, le direct, pour nous, ça change pas grand-chose parce que chaque fois qu'on monte sur scène, nous, on est en direct devant le public. C'est du direct, il y a pas de.
Au contraire, ça a plutôt tendance à nous exciter, à nous motiver encore plus. Il y a un plus pour le public, hein, parce que les émissions en direct de spectacle sont très rares. Mais quand elles existent, c'est toujours un plus sur l'audience parce que les gens, ils adorent voir un événement en direct. Ouais. Et nous, on adore jouer en direct. Donc non, ça c'est plutôt excitant.
Oui, et puis vous êtes les champions des trous de mémoire. Et puis vous aidez pas quand vous avez des trous de mémoire,
voilà,
si je me souviens bien.
On s'amuse, ouais.
Alors, on a un petit extrait, je crois, Gilles.
Alors, on n'a pas un petit extrait, je vous ai ressorti, puisqu'on parlait du Covid et autres, je vous ai ressorti un sketch où vous parliez de la France championne du monde du virus.
Ah oui.
Salut Fernand.
Oh, joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Ah, ça fait plaisir de terminer une année comme cela. Hein.
Une année exceptionnelle. Qui aura prouvé une fois de plus que qui c'est les meilleurs, c'est...
Les Français. On a été premiers en tout.
Mais bien sûr, c'est qui a dit au début, il n'y a pas de virus ?
Les Français,
ils n'ont pas... Les Chinois, ils disaient, il y en a, tout le monde... Non, mais les Français, non, il n'y en a pas.
Il fallait avoir des couilles pour le dire.
Et après, c'est qui a dit, ah non, mais des virus, il y en a. C'est nous, c'est les Français
qui l'ont dit. Qui a dit le premier, il ne faut pas de masque, ça sert à rien.
C'est les Français qui l'ont dit. On a eu le courage de dire qu'il ne fallait pas de masque.
Exactement.
Qui c'est qui a eu le courage, 15 jours après, de dire il faut des masques ?
Les Français,
c'est toujours les Français.
Qui
c'est qui a dit on confine ? Les Français, qui c'est qui a dit on déconfine ?
Les Français.
Qui c'est qui a dit on reprend la vie comme elle était, il n'y a plus aucun risque ? Les Français.
Et voilà, c'est toujours d'actualité.
Et qui c'est qui a dit il faut arrêter de vacciner ? Les Français.
Les Français, absolument. On n'a peut-être pas été les premiers sur le coup, mais on a bien suivi.
Non, on était bien placés.
Ça parle beaucoup du Covid, votre spectacle ?
Oui, ça parle de la vie. Donc oui, on vit tous cette vie à des degrés différents. Mais bon, évidemment, une coiffeuse et sa cliente parle aussi du Covid. Mais elle parle de leurs histoires d'amour, de leurs rêves, de leurs fantasmes, de leur
envie, ouais. Quoi. C'est un confessionnal au bout d'un moment, voilà. Et puis elle se libère sur la fin, voilà. Elle se lâche, sur scène.
Vous en faites un petit échange ou pas ?
C'est difficile, mais...
Ça commence comment, la première phrase ? Qui commence ?
La première phrase, c'est on parle des contraintes. C'est-à-dire, moi, je rentre, je dis, et elle me passe les... Elle met mon manteau.
Non. Oui, s'il vous plaît. Le votre veste, vous la mettez dans le bac, s'il vous plaît, pour les vestes.
On peut plus la mettre sur le porte-manteau.
Et non, à cause du virus. Là, c'est le bac où se mettent les virus. C'est des contraintes.
C'est le bac à virus.
Voilà, exactement.
Comme ça, on sait où ils sont.
Exactement. C'est très strict. Vous savez, comme le dit le ministre Véran, tester, tracer, dénoncer.
Ah non, ça, c'était le ministre Pétain qui disait ça. Le ministre Véran, il dit tester, tracer, isoler.
On va avouer que c'est pas loin, quand même.
C'est vrai qu'on y est presque.
Ah, bravo.
Génial.
Super.
Génial, ça donne envie de voir la suite. Vous voulez pas répéter avec nous ?
Ça fait des applaudissements dans la salle en plus.
Mais alors là, du coup, vous allez avoir du public ou pas ?
Oui, alors
comment ça va se passer ?
On prend le stratagème que prennent les émissions de télé en public, savoir
vous embauchez.
Et qu'on a fait d'ailleurs en décembre pour notre dernière émission, on embauche. On embauche entre guillemets des figurants qui sont des vrais spectateurs en fait, mais qui sont déclarés.
Et qui ont un contrat de travail.
Et on respecte évidemment strictement les conditions sanitaires.
Et les gestes barrières.
Oui. Donc, il y a que un tiers de la salle qui est là, et ils ont des masques, et ils sont séparés, et menottés pour la prochaine fois.
Mais c'est d'une très grande hypocrisie, ce truc. Enfin, moi, j'ai été très choquée au début, quand je voyais à la télé, toujours pas au début, à la fin, au milieu aussi, mais de voir des spectateurs dans les spectacles qui sont diffusés à la télévision, et on m'a expliqué que oui, c'était des intermittents, que c'était des gens ou des maisons de disques qui étaient payés, qui étaient considérés comme travailleurs. Donc c'est incroyable d'hypocrisie.
Oui, parce que oui, ça voudrait dire quand même que dès qu'on paye les gens, il n'y a plus de virus. C'est ça, en gros. Mais, oui. Ça crée des emplois, déjà.
Ça crée des emplois.
Mais pour nous, c'est quand même assez bizarre de payer les gens pour venir nous voir.
Voilà, ça n'est jamais fait, jamais arrivé.
Comment ça s'est passé ?
Ça va pas durer, d'ailleurs.
Comment ça s'est passé cette année pour vous ? Vous avez...
Dieu merci, on fait pas mal de télé assez vite.
Et de la radio.
Et de la radio sur notre radio. Ouais. Donc, ça, c'est des métiers qui ont, pour nous, continué quand même. Mais par contre, tout ce qui est de nos théâtres, des productions et de notre énorme tournée qu'on avait, on a annulé une quarantaine de zéniths. Voilà. C'est rien. Voilà, c'est tout un 35 personnes qui ne peuvent plus travailler.
Alors, on espère que jeudi, on aura peut-être une meilleure visibilité sur l'avenir, mais pour l'instant,
vous y croyez ?
On ne sait pas. On nous a tout laissé tellement d'espoir et on n'a toujours pas de date.
On a été un peu offusqués. On la connaissait par ailleurs, Roselyne Bachelot. Elle est vachement sympa. On s'est connus à un moment où on travaillait sur la même télé. Et de l'entendre il y a 2 ou 3 ou 4 jours dire la culture en France est en marche, on s'est dit, c'est pas possible. On nous l'a changé, notre Roselyne, parce que en marche, nous, on peut lui montrer nos théâtres déserts depuis un an, notre restaurant fermé, et les gens à qui on est obligé de faire des salaires sans qu'ils travaillent, parce qu'ils ont plus droit à rien.
Mais Francis, est-ce qu'elle a vraiment le choix ?
Est-ce qu'elle a le choix ? Peut-être pas. Peut-être pas, j'aimerais bien.
Hein, oui, mais c'est le problème des ministres. Ils sont obligés d'écouter la voix de son maître. Mais bon.
Mais là, parce que quand même, expliquer à des gens qui font du surf, qui peuvent filer un virus, ou qui marchent dans la forêt, qui peuvent choper un virus, ou dans un théâtre, que c'est beaucoup plus dangereux que d'être côte à côte dans le métro, au bout d'un moment, c'est pas tenable. D'ailleurs, je crois que les gens en ont plus que marre, quoi. C'est-à-dire que là, on arrive à un point où, je sais pas trop, on va arriver à des extrêmes pas sympas et on souhaite vraiment qu'il y ait des solutions qui se trouvent, quoi, intelligentes.
Et Gilles évoquait les Césars, vous les avez regardés, vous en avez échos ?
Non, on répétait. Non. Déjà, avant de faire du cinéma, on ne les regardait pas trop. Et après avoir fait 3 films, on ne les regarde plus du tout.
C'est vrai que ce n'est pas trop le genre de films qui sont récompensés, malgré le succès.
Puis tellement nous, on ne fait pas ça pour avoir des prix.
Non.
Mais malheureusement, en fréquentant ce milieu de l'intérieur, parce qu'on a quand même fait 3 films, on a quand même eu affaire à ces professionnels de la profession. Et qui sont, mais c'est, on n'ose pas les mettre dans nos sketchs tellement ils sont vraiment monocylindres, quoi. Ils ont
caricaturaux.
Ils sont dans le triangle des Bermudes. Dès qu'ils dépassent Boulogne, ils prennent de la truc contre la malaria. Hein. Donc mais c'est vrai. Alors quand on les regarde, on n'a pas du tout l'impression de faire le même métier, pas du tout, du tout. Ouais. Je les trouve snob. J'ai vu juste le début là l'autre jour. De la fameuse Marina, j'ai trouvé ça snob, ni fait ni à faire.
Écoutez, ça a été très, très commenté, parce qu'il faut dire que vos films ont quand même un vrai succès, des vrais cartons à chaque fois, c'est toujours le débat sur le cinéma populaire, et effectivement, des films qu'on découvre pendant la cérémonie, tiens, il y a eu ça, Poisson sexe, par exemple, j'en avais pas entendu parler, ça m'avait échappé dans la programmation, on se dit, tiens, ça a été à l'affiche.
Un truc qui va vous faire marrer, quand on a fait notre premier film, vous savez, les régions, les conseils régionaux, certains aident le cinéma, parce que si on va tourner chez eux, ça crée des emplois, etc. Et donc, on avait passé la commission nous, on n'a pas été jugés aptes à recevoir la moindre aide de la région Occitanie.
Mais
le mec qui a eu l'aide, c'est un film qui s'appelait « Je te parlerai comme un aveugle » et qui a fait 12 spectateurs, je pense, ou 13, si la famille est venue. Et on s'est dit, on n'est pas du même monde.
C'est
l'histoire de titre. Je te retrouverai un jour, demain peut-être. Voilà. Là, vous auriez eu une subvention.
On n'est pas spécialement poujadiste et tout ça. C'est-à-dire que c'est surtout qu'on n'est pas jaloux de leur destin. Quand on voit le nôtre, on se dit, on a fait comme on voulait, on s'en est bien sorti, ça va.
Ouais, c'est ce qu'il faut se dire. Le spectacle donc inédit, Les Décoiffeuses, ce sera vendredi soir sur C8. On a eu le début.
Merci.
Vous êtes les premiers.
C'est vendredi, donc ça donne évidemment envie de voir la suite. Puis on vous applaudira dans notre salon, on vous fera des petits applaudissements.
On n'en doute pas.
Merci à vous, merci Eric Carrière et Francis Junibre, et puis on a de retrouver Ghislaine et Véronique. C'est vendredi.
Vendredi.
Merci à vous. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Sud Radio, 10h midi.
Alors, la question
peut-être
du
un
jour.
Ils auront un César quand même, nos chevaliers du fiel. En tout cas, César des entrées, hein, parce qu'à chaque fois, ça cartonne et on verra. Je pense que vendredi, ça va bien marcher en audience. Et bien justement, puisqu'on parle de télé, on fête les 1 an du confinement sur Sud Radio.
En fait,
on célèbre. Non, on parle des 1 an du confinement sur Sud Radio. On s'est demandé, juste pour l'émission Média, si vous avez changé vos habitudes télé avec le confinement. Les chaînes avaient changé leur programmation, mettant des films tous les jours. Eh bien oui, à 58%, une majorité, Valérie, de nos auditeurs, ont changé leurs habitudes télé avec leur confinement. Et non, à 42%, vous êtes nombreux à réagir sur le compte Twitter. C'est vrai qu'aussi, il y a eu beaucoup de choses avec les chaînes info. Il y a eu des émissions spéciales. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui ont changé et bouleversé nos habitudes télé.
Ouais, il y a le message de Jackie qui nous dit « On s'est vite rendu compte que la télévision n'était plus un appareil pour prendre du plaisir et décompresser des mots de la journée, mais un outil à rendre fou les fragiles de la cafetière. » Alors après, Jackie, il y a un truc qui s'appelle une zapette au Québec, une télécommande en France, et on n'est pas obligé de se mettre en perfusion sur les chaînes d'info. Il y a quand même, je crois qu'on a découvert aussi un certain nombre de plateformes.
Non, mais c'est vrai
Mais je suis d'accord avec Jackie, hein. Je crois que les chaînes d'info, on y était, malgré nous, un peu accro.
Puis le Jérôme Salomon qui intervenait, rappelez-vous, tous les jours à 19h pour dire combien il y avait de morts, si on allait survivre. Enfin, c'était très angoissant ce rendez-vous à 19h en voyant les chiffres qui montaient, où il arrivait. Et oui, il faut se remémorer de cette époque-là.
Un petit coup de cœur pour CAC, le dessinateur de l'Opinion. C'est un quotidien. Et donc, il y a Emmanuel Macron qui s'adresse à un médecin et qui dit « Je vais vous demander de ne pas injecter le vaccin que vous n'avez pas reçu ». Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. On a interdit le vaccin qu'on n'avait pas. Allez, on se retrouve dans quelques secondes avec Luc Frémiot. On va continuer à parler du confinement, puisque les violences conjugales ont augmenté pendant le confinement. Et on va parler de la lutte contre ces violences faites aux femmes.
Et demain, on aura Denis Brognard. Préparez vos totems.
Absolument.
Sud Radio, c'est vous qui en parlez le mieux.
Je voulais vous dire merci à toutes vos équipes pour la qualité des émissions, la pluralité des points de vue.
Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, l'œil de l'expert.
L'œil de l'expert aujourd'hui, c'est Luc Frémiot. Bonjour.
Bonjour, Valérie.
Merci d'être avec nous ce matin, ancien procureur de la République à Douai. Vous venez de publier Non-assistance à femmes en danger aux éditions de l'Observatoire. Vous êtes aujourd'hui à la retraite, enfin à la retraite de votre travail de magistrat. Vous êtes avocat, mais vous êtes extrêmement engagé contre les violences faites aux femmes depuis très longtemps. Je veux dire que je vous ai reçu à de nombreuses reprises, qu'à chaque fois vous aviez annoncé, enfin préconisé un certain nombre de mesures depuis très longtemps et qui n'avaient pas été très écoutées jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on peut juste couper la musique parce que ça me perturbe beaucoup d'avoir ce... Voilà, je suis désolée. Décidément. Le Grenelle... Vous n'êtes pas avocat ?
Non, je suis consultant dans un cabinet d'avocat.
D'accord. Le Grenelle des violences faites aux femmes s'est terminé le 25 novembre dernier. Et ce livre, c'est une sorte de bilan que vous avez fait de votre combat à vous et dresser un bilan aussi des petites avancées parce qu'elles sont encore trop timides.
Oui, première chose, excusez-moi, je ne suis pas avocat, je suis consultant dans un cabinet d'avocats, oui, c'est important de le dire. Oui, effectivement, ce livre, en fait, c'est le résumé de 20 ans de combat contre ces violences faites aux femmes, avec évidemment des préconisations que je maintiens, des pistes, et puis aussi une réflexion sur les victimes, sur le statut de la victime, et sur un certain nombre de contre-vérités qu'on entend régulièrement, dans le style « la parole est libérée », qui est une affirmation fausse, trompeuse et qui est inacceptable.
Pourquoi vous dites que la parole ne s'est pas libérée? Il y a de plus en plus de femmes, on voit les affaires se multiplier, il y a eu une parole qui s'est libérée sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas ça pour vous, libérer la parole?
La parole libérée, elle se fera le jour où une femme pourra aller décemment devant un commissariat, devant un officier de police judiciaire, porter plainte avec la certitude que sa plainte sera prise et qu'elle sera ensuite protégée avec son conjoint évincé du domicile. Ouais. Pour l'instant, cette libération de la parole, ça sonne au contraire le désaveu de la confiance entre les citoyens et les institutions. Pourquoi va-t-on sur les réseaux sociaux? Parce qu'on ne fait plus confiance ni à la police, ni aux magistrats.
Et ça vous gêne ou pas, cette prise de parole, ces accusations contre Gérard Depardieu, Patrick Poivre d'Arvor? Vous comprenez que des femmes, finalement, n'aient pas d'autre choix que cette condamnation médiatique?
Moi, je dis qu'elles ont un autre choix. Je dis qu'il faut absolument avoir la discipline et le courage de déposer plainte devant un service de police ou de gendarmerie.
Vous connaissez les chiffres mieux que moi. 1% de plaintes qui aboutissent à une condamnation, ça ne vous donne pas très envie d'aller porter plainte.
Oui, mais c'est la seule solution. C'est la solution efficace, parce qu'il faut y aller ou avec un avocat, ou avec une association des deux victimes. Il faut obliger ces services, lorsqu'ils refusent de prendre une plainte, de prendre cette plainte. Et il faut qu'il y ait une pression sur les procureurs de la République exercée par le garde des Sceaux, de manière à ce que ceux-ci instruisent enfin les plaintes. Mmh. Il y a eu une inspection qui a eu lieu en septembre 2019, à ma demande, et qui a conforté tout ce que j'avais dit. C'est-à-dire que, il y avait une grosse partie des mains courantes qui étaient encore prises, alors que c'est défendu, que les plaintes n'étaient pas instruites et que les procureurs de la République ne les suivaient pas. Alors, maintenant, il y a une inspection, il y a un constat, on a les moyens, il faut agir.
Ça veut dire quoi, les mains courantes? C'est pas suffisant?
Une main courante, ça ne sert à rien. C'est une déclaration que vous faites devant un policier et il n'y a pas d'enquête derrière. Ça donne une date certaine à une déclaration, c'est tout.
Donc, mais vous le racontez assez bien dans le livre, cette emprise des hommes violents sur leurs femmes, la complexité, la difficulté qu'ont ces femmes à aller porter plainte, à quitter le mari violent, et puis cette ambiguïté qu'elles ont par rapport à un homme qu'elles aiment et dont elles pensent qu'il pourra un jour être meilleur.
Tout à fait, l'emprise part effectivement de ces éléments-là. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter également d'avoir des réflexes qui consistent à juger les femmes qui ne savent pas prendre cette décision, parce qu'elles sont sous emprise, parce qu'il y a aussi souvent une dépendance économique, parce qu'il y a les enfants qui sont présents. Alors que malgré tout, la meilleure solution, c'est effectivement de quitter ces hommes violents.
Oui, d'équiter et d'éloigner l'homme violent. C'est votre combat, c'est ce que vous avez, vous, mis en place à Douai il y a déjà combien, près de 20 ans.
Oui.
Vous n'avez jamais été entendu par les différents ministères, par les différents ministres de la Justice. Cette fois-ci, vous avez quand même été reçu et entendu lors de ce Grenelle des violences faites aux femmes.
Alors moi, je n'ai pas voulu participer au Grenelle parce que j'ai considéré que c'était une forme de marécage dans lequel je ne voulais pas m'enliser. En revanche, j'ai fait des préconisations par voie de presse, les médias ont eu la gentillesse de me suivre. Et Édouard Philippe a repris toute une série d'éléments que j'avais demandé, effectivement, création de centres d'encadrement pour ces auteurs, mais on attend toujours. Et on ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas si c'est le garde des Sceaux, on ne sait pas si c'est Nadine Morano, ouais. On ne sait pas comment dire...
Pas Nadine Morano. Madame Moreno, la secrétaire d'État aux droits des femmes. Oui, c'est ce que vous dites, il y a cette espèce de triangle entre le ministre de la Justice, Marlène Schiappa à l'intérieur, et Madame Moreno, c'est ce que vous racontez dans le livre, on ne sait pas qui fait quoi.
On ne sait pas qui fait quoi.
Et le ministre de la Justice qui n'est pas très clair sur, sur les décisions, ce que vous dénoncez dans le livre. Hein. Vous dites, il dit une chose, mais il fait rien pour mettre en place ces choses-là.
Tout à fait, il ne se passe rien. Alors, on m'a annoncé la création de 14 centres d'encadrement, mais on ne sait pas sous l'égide de qui. J'ai posé la question, mais personne ne le sait.
Et à quel terme ?
Eh bien, il paraît qu'il y en a qui ont déjà été mis sur pied. Bah, écoutez, moi, j'aimerais savoir où, comment, dans quelles circonstances, quelle est l'autorité de tutelle, etc. Et puis savoir surtout si les magistrats ont enfin décidé d'éloigner ces hommes violents.
Ouais, c'est ça.
C'est ça la solution. Ça, plus le bracelet électronique. Ouais. Si on attend que le bracelet électronique, qu'une personne soit condamnée un an ou deux ans plus tard, ça ne sert à rien. Il faut le mettre dès cette prise de plainte, dès qu'il y a eu cette garde à vue et dès qu'on éloigne cet homme.
Ouais, parce que redites les résultats que vous avez eus, vous, à Douai. Mettant ça en place, la récidive, en fait, tombe pratiquement...
J'ai baissé la récidive entre 6 et 8 %. Ouais. Alors qu'à l'époque du Grenelle, d'après les statistiques, il y avait 45 % de récidivistes.
Et en matière de violence, alors c'est une femme qui meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Ce chiffre est toujours là. Il y a eu un petit peu moins de féminicides en 2020. Néanmoins, les violences conjugales ont augmenté pendant le confinement.
Les violences conjugales ont augmenté de 40% au premier confinement, de 60% au second. Et quant à la chute du nombre de féminicides, évidemment, je m'en réjouis. Mais ça s'explique aussi par le fait que la plupart des féminicides ont lieu au moment où la femme quitte le domicile. Et avec le confinement, bien évidemment, ce n'était pas possible.
Oui, donc c'est un chiffre en trompe-l'œil.
Je le crains.
Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette emprise et du ressort de ces hommes violents, vous qui les avez côtoyés, qui les avez mis à l'isolement. C'est tous les milieux qui sont touchés par ce fléau.
Tous les milieux sont touchés, et plus le milieu favorisé, plus c'est difficile pour une femme d'aller dans un commissariat et de déposer plainte, parce qu'elle a très peur de ce qu'on dira, de ce que diront ses amis, ses voisins, à l'école, les enfants, etc. C'est très compliqué. Et ces hommes violents, ils sont dans une situation psychologique très particulière, c'est pour ça qu'il faut s'en occuper. Ils sont dans le déni. Ils vous diront toujours « je ne suis pas violent, mais c'est ma femme qui me rend violent
». Et ça, vous donnez un nombre d'exemples glaçants d'un homme qui vient témoigner en disant « c'est pas moi, c'est ma femme qui me rend violent ».
Oui, dans mon livre, j'ai insisté effectivement sur cette emprise et sur également l'état psychologique des auteurs.
Ouais.
Et ce que je dis aussi, c'est qu'il faut arrêter de stigmatiser les femmes. J'ai entendu, je ne sais pas combien de fois aux assises, de dire « moi, à sa place, je serais parti ». Mais on n'est pas à la place des autres.
Ouais.
Chacun réagit comme il le peut, avec sa sensibilité, sa force, son courage et son histoire.
Absolument, Christine. Christina nous dit « Il n'y a pas assez de personnel, j'ai déposé plainte pour mon fils pour violence paternelle, classé sans suite. Imaginez la réaction de mon enfant, la déception de mon enfant. C'est ça aussi qui fait que les victimes ne vont pas porter plainte, parce que elles sont pratiquement persuadées qu'il n'y aura pas de suite. »
Oui, mais il faut absolument continuer à porter plainte. Ce n'est pas devant les réseaux sociaux qu'on pourra rendre la justice.
Ouais.
Au contraire, elles risquent beaucoup de choses, parce qu'elles risquent des procès en défamation, elles risquent des procès en dénonciation calomnieuse. Et puis en plus, c'est extrêmement grave aussi de mettre sur la voie publique, des fois l'honneur d'une personne. Vous savez, il y a des femmes qui peuvent légitimement en vouloir de façon très forte à quelqu'un, à un compagnon, parce qu'il leur a menti, parce qu'il les a trompées, etc. Et elles peuvent se venger.
Ouais.
Et elles considèrent que c'est une vengeance légitime, que je peux comprendre.
Ouais.
Mais ce n'est pas ça qui doit être la règle, bien sûr.
Vous revenez longuement sur l'affaire Sauvage aussi, dans votre livre, qui est devenu une sorte de symbole des violences faites aux femmes. C'est un cas très particulier. Il y avait déjà eu deux jugements de cour d'assises qui l'avaient jugée coupable, puisqu'elle n'était pas en état de légitime défense. C'est très compliqué à expliquer, cette nuance.
Vous savez, la nuance, elle est malgré tout assez claire. C'est-à-dire qu'elle a tué son mari.
Ouais.
Alors que celui-ci n'était pas violent au moment où on l'a fait.
Ouais.
Donc il n'y avait pas de défense. C'est une légitime défense différée, comme disaient d'ailleurs ses avocats, mais c'est une stratégie
hasardeuse. Ça veut dire qu'on se fait justice
soi-même. Voilà. Ça veut dire que je n'ai pas confiance dans la justice. Eh bien, si on accepte la légitime défense différée, c'est-à-dire débrouillez-vous, Et puis nous, ensuite, on verra ce qu'on fait.
Ouais. Les problèmes, vous les évoquez. Alors, vous dites, hein, à la fin, dans la conclusion, j'ai été seule dans le désert. Vous étiez très, très seule. Aujourd'hui, moi, je me réjouis que vous ayez pu être, en tout cas, entendue là-dessus. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui pêchent. Il faut commencer par quoi ? Les commissariats ?
Il faut commencer par...
La formation des policiers ?
Oui, la formation des policiers. Mais c'est surtout, il faut un contrôle de la hiérarchie. Ouais. Il faut que le commissaire, qui est à la tête du commissariat, vérifie, voit s'il y a eu des mains courantes, pourquoi il y en a eu, vérifier si les victimes sont bien accueillies. Et il faut que le garde des Sceaux ordonne au procureur de la République de faire un état trimestriel tous les trois mois qu'il rende compte combien il y a eu de mains courantes, pourquoi il y a eu des mains courantes, combien il y a eu de plaintes, est-ce que ces plaintes ont été suivies, est-ce que les hommes ont été éloignés, est-ce que les femmes ont été prises en charge. Il faut qu'il y ait un véritable carcan procédural qui oblige les gens, et sinon des sanctions lorsque ça aboutit par exemple à des erreurs monumentales comme il y a pu avoir avec une femme qui se retrouve sur une table d'autopsie parce qu'on n'a pas pris en compte ses doléances.
Oui, sauf que ça c'est dans un monde idéal, on voit que les policiers sont débordés, il suffit d'aller dans un commissariat, ne serait-ce que pour une plainte ou une main courante, il y a une queue impossible et les conditions de travail ne sont pas toujours idéales.
C'est vrai que les conditions de travail ne sont pas idéales, mais il y a des priorités.
Oui, c'est ça, mais quand ça veut dire que ce n'est pas une priorité pour le gouvernement.
Voilà. Quand j'étais procureur de la République, j'aurais pu mener d'autres combats. Ouais. J'ai choisi celle-ci parce que c'est un fait de société. Parce que lorsqu'on travaille aujourd'hui sur les violences, on travaille pour demain. Il ne faut pas oublier qu'il y a des enfants qui sont là, qui sont des petits otages, des témoins et des victimes, et qui reproduiront eux-mêmes ou un statut de victime ou un statut d'auteur. Il y aura une partie, un tiers, qui heureusement bénéficiera de la résilience. Mais on ne peut pas jouer sur des paris comme ça.
Je conseille la lecture de votre livre, qui est vraiment passionnante, parce que vous racontez que vous recevez beaucoup de témoignages encore. Vous êtes très identifié, et de femmes qui vous racontent des histoires absolument dramatiques. Donc je rappelle votre livre, Non-assistance à femmes en danger. C'est paru aux éditions de l'Observatoire. Merci Luc Frémiot. Et si on doit retenir un message pour des femmes qui nous écouteraient et qui sont battues, qu'elle porte plainte.
Oui, qu'elle porte plainte. Ouais. Il faut absolument le faire. Et qu'elle se fasse aider pour porter plainte si on refuse de prendre ses plaintes.
Merci Luc Frémiot d'être venu ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.